chers amis, je profite que vous êtes très à l'heure pour d'abord vous féliciter, vous remercier, vous dire aussi avant que j'oublie que demain matin, ceux qui viennent à la messe, elle sera célébrée ici, puisque le lycée La Rochefoucauld, le lycée d'Alma se confessent abondamment demain matin. Donc, messe ici à 8h30. Et nous accueillons notre conférencier, cher père Nicolas. Vous êtes connu, non seulement internationalement, mais y compris par des paroissiens qui se sont empressés naturellement de vous retarder pour cette soirée que nous allons partager ensemble et nous nous en réjouissons beaucoup. Tout à l'heure, en prenant un léger encart ensemble, on a parlé de tant de sujets, de thèmes développés, de domaines que vous explorez, aussi bien avec des philosophes comme Luc Ferry, Comte Sponville, qu'avec des scientifiques comme Jean Stone, que des chefs d'entreprise, et vous conférez devant des milliers de chefs d'entreprise qui sont très intéressés par le rapport entre l'entreprise et l'éthique, et puis l'éthique et la foi et la science, bref, tous ces sujets qui sont passionnants et qui pourraient d'ailleurs être ouverts ici à la paroisse. Mais peu importe, on ne va pas brosser maintenant l'avenir. Je voulais vous dire que j'étais très heureux de vous accueillir et que, avec vous, nous allons entrer plus profondément dans le mystère de l'Eucharistie, dans l'adoration, et nous aurons, alors je crois que le mieux c'est de se fixer quand même une limite, si nous prenons un temps d'adoration ici même, peut-être à peu près entre 21h30 et 22h10, quelque chose comme ça. Donc, si je vous laisse une heure, c'est bien. Hein, parfait, voilà. Hein, on va prendre une bonne heure avec vous. Donc, en posant peut-être des questions qui sont posées. En tout cas, je m'agiterai. Merci à vous et entrons dans ce beau mystère avec vous.
Voilà, bah écoutez, très très heureux de me retrouver avec vous ce soir pour méditer un petit peu sur ce qui est au cœur de notre foi, d'un grand mystère, d'un mystère absolument inouï, tellement gigantesque et en même temps tellement humble. C'est le mystère de l'Eucharistie. Voyez-vous, si on regarde les grandes religions du monde, aucune n'avait pu imaginer un Dieu pauvre. On a des dieux qui ont des qualités assez extraordinaires dans les grandes traditions mythologiques ou religieuses de l'humanité. Il y a des dieux avec des attributs humains parfois aussi discutables. Bref, mais une chose qui n'a jamais été dite, jamais, c'est un dieu qui s'abaisse, un dieu qui se fait pauvre, un dieu qui prend notre humanité et qui descend, nu dans la crèche, nu sur la croix et nu sous l'apparence de ce bout de pain. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et cette correspondance entre ceci et le corps, ceci et le sang, ce que vous voyez, ce que vous apercevez, ce n'est plus du pain, c'est le corps du Fils de Dieu. Ce que vous apercevez, ce n'est plus du vin, c'est le sang du Fils de Dieu. Interpelle et nous conduit dans une sorte de stupeur. Et alors, ce n'est pas directement de ce mystère-là que j'aimerais parler ce soir, puisqu'on m'a demandé de parler de l'adoration et de la guérison. C'est un petit peu de montrer comment le mystère de la présence du Christ qui nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, eh bien, peut conduire à une guérison profonde du cœur de l'homme et de la société tout entière. Alors, peut-être une première remarque. D'abord, on va partir du principe que c'est Jésus qui est présent. C'est, j'ai un ami qui est prêtre aujourd'hui, à la retraite maintenant, qui, dans son jeune âge, était servant de messe. Et il servait la messe avec un vieux curé très pieux, un peu handicapé, de sorte qu'après l'élévation de l'hostie à la messe, il a mis les deux coudes sur l'autel et au moment... Vous entendez bien? C'est pas trop bien? Ça va? Vous me dites, hein, si vous faites des gestes, si ça va pas. Et donc, au moment de l'élévation, après l'élévation, il pose l'hostie sur la patène, il met les deux coudes sur l'autel, et au moins sur l'aile, il n'y a plus d'hostie sur la patène. Elle était rentrée dans la manche de l'aube, et le pauvre prêtre, complètement surpris, se tourne vers la sœur de messe et dit « Bon sang, il est où le bon Dieu ?» Le savant de Metz qui avait bien appris son catéchisme. Deuxième question, où est Dieu? Au ciel, sur terre et en tout lieu. Donc répond fièrement et avec une voix forte, au ciel, sur terre et en tout lieu. Et le curé lui dit, non pas celui-là, l'autre. Donc, c'est bien qu'il n'y avait qu'un seul bon Dieu, celui qui est au ciel, sur terre et en tout lieu, mais qui est là, présent, sous l'apparence de cette vulnérabilité extrême. Ce que saint Paul nous dit dans l'épître aux Philippiens, la kénose, un Dieu qui s'abaisse et qui s'humilie jusqu'à se faire obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. On pourrait dire que l'extrême, c'est jusqu'à l'hostie. Dans le livre du prophète Isaïe, quand il nous parle du serviteur souffrant, il nous dit que ce serviteur souffrant n'a plus le visage d'homme, il est trait d'un fils d'Adam. Cette parole s'applique imparfaitement à la passion, puisque, effectivement, il est défiguré, mais il reste quand même dans l'apparence humaine. Cette parole du prophète Isaïe prend tout son sens lorsque Jésus n'a plus que le look d'un bout de pain et d'un peu de vin et qu'il est réellement présent. Ce mystère d'une folie qui est un mystère de l'extase, voyez-vous. Dieu se donne. Se donner, c'est sortir de soi. C'est véritablement être en extase de soi, c'est-à-dire en dehors de soi, dans un don total et en même temps un exode d'aller vers les autres. Or, cette extase et cet exode qu'on vit dans l'amour quotidien, qu'on vit dans le partage, lorsqu'on est attentif à l'autre, plus qu'à soi-même, Jésus le vit jusqu'à l'extrême, au point que l'extase du Christ et l'exode du Christ lui permet d'être présent en dehors de lui-même, sans se quitter lui-même. C'est la scène, c'est la dernière célébration eucharistique. Vous entendez pas bien ? Hein ? Il est en dehors de lui. Ça va mieux comme ça ? Vous voulez que je me mette au micro, là, peut-être ? J'essaye ? D'accord. Non ? Elle marche pas. D'accord. Peut-être de se mettre, alors, quelques personnes au fond.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Parce que sinon, je ne sais pas comment je vais faire.
Voilà. Je peux me mettre au pupitre aussi, hein, si vous voulez.
Je ne sais pas si...
C'est technique, hein.
Oui, dans ça, oui.
Voilà, plutôt... faut prendre l'autre pied.
Non, mais je vais aller comme ça, si c'est ça. Hop là.
L'autre pied.
Voilà. Et que... Comme ça, vous entendez ? C'est mieux ? Ah, très bien, voilà, très bien. Alors, on va... partir dans l'exercice comme ça. Voilà, donc, j'étais dans cette extase où Jésus va tellement être extatique, être en sortie de lui, être en exode de lui, qu'il se rend présent en dehors de lui-même, sous l'apparence du pain et du vin, ceci est ma chair, ceci est mon sang, sans se quitter lui-même, bien sûr, puisqu'il reste lui-même en permanence. Ce corps est indivisé. Et donc, on pourrait dire que, dans une logique d'amour, l'Eucharistie était une exigence du Christ, de se rendre présent, de se donner à ce point qu'il puisse dire « Prenez, mangez, c'est ma chair, prenez, buvez, c'est mon sang ». Et tous les pères de l'Église ont été en stupeur devant ce grand mystère. Donc, c'est le point de départ, si vous voulez. J'aimerais faire le lien maintenant entre l'adoration et la guérison, avec peut-être quelques remarques préliminaires. D'abord, une confusion parfois entre la santé et le salut. En latin, c'est le même terme, en plusieurs langues d'ailleurs, on retrouve la même étymologie du santé et de la santé et du salut. Souvent, nous sommes en quête de santé, et fondamentalement, c'est le salut que Dieu vient nous donner. Il y a une interdépendance entre l'un et l'autre, mais cette quête de santé, ce déplacement de la soif du salut sur la quête de la santé, est quelque chose qui est assez moderne, quelque part. Dans l'Écriture sainte, la frontière ne passe jamais tellement entre santé et maladie, même pas entre vie et mort. La frontière est toujours entre avec Dieu ou sans Dieu. Vous savez, quand les Juifs sont dans le désert et qu'ils abandonnent la loi de Dieu, il y a des serpents brûlants qui commencent à mordre les Hébreux et les gens meurent. Ils sont complètement paniqués, c'est la phobie des serpents brûlants. Moïse arrive, il se précipite vers lui et dit « Va négocier le coup avec le bon Dieu, on n'en peut plus, les serpents brûlants, ils nous font disparaître les uns à la suite des autres, il faut faire quelque chose. » Et Moïse va trouver Dieu et lui dit, voilà, il y a un problème avec les serpents brûlants. Et alors, Dieu dit, ah d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent tous, il faut que tu fasses quelque chose. Et Dieu dit, fais-toi un serpent brûlant. En hébreu, c'est le même terme. Et Moïse dit, non, tu n'as pas très bien compris, Seigneur. Ils ont un problème, justement, c'est leur phobie. Et Dieu dit, alors fais-toi un serpent brûlant que tu vas dresser au milieu du camp. Il dit, non, attends, je t'explique. De point de vue humain, c'est leur problème. Le serpent brûlant provoque la mort. Et Dieu insiste en disant, fais-toi un serpent brûlant. Et tu vas le dresser au milieu du camp. Et alors, on se dit, tiens, c'est assez étonnant que l'hébreu prenne, alors il le fait ensuite dans une matière particulière, mais l'ordre de Dieu, c'est de faire un séraphe, un serpent brûlant. Et alors, on se dit, mais pourquoi Dieu demande-t-il de faire exactement ce qu'était la phobie du peuple? Eh bien, c'est que le serpent brûlant sans Dieu provoque la mort, le serpent brûlant avec Dieu donne la vie. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'endroit même où je risque de mourir, c'est l'endroit même où Dieu me rejoint pour me donner la vie. Il n'y a pas deux rendez-vous différents. On aimerait tellement fixer rendez-vous à Dieu ailleurs que là où on a un problème, alors que là où on souffre. Et c'est justement là que Dieu vient nous rejoindre, voyez-vous. Et investir cette fêlure, cette blessure ou cette fracture en nous par sa présence, qui est déjà une première transfiguration. Il y a une scène assez intéressante dans l'Écriture sainte, dans les Actes des Apôtres, c'est l'histoire de l'eunuque éthiopien, vous savez, dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres, le premier ministre de la reine Candice d'Éthiopie vient faire son pèlerinage à Jérusalem et il repart en lisant la parole de Dieu, un livre d'Isaïe. Or, il est eunuque et dans la tradition antique, la bénédiction était signifiée par la postérité, par la descendance. Or, lui n'aura pas de descendance. Donc, il va faire un long voyage, seul sur son char, jusqu'en Éthiopie. C'est quand même plusieurs jours de travaux de voyage. Et il lit la parole de Dieu comme une sorte de consolation. Il a plus les ors et les honneurs de la cour. Il est seul face à lui-même. Et voilà qu'il tombe sur un texte d'Isaïe qui dit « Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa postérité, qui la racontera ?» Et on a envie de dire, mais Dieu, t'es pas très gentil. Il souffre déjà de ne pas avoir de descendance et de postérité. Et quand tu lui parles par ta parole, tu mets le doigt en plein sur son problème. Sa descendance, qui en parlera? Vous imaginez, seul, sans aucune manière de se faire valoir à ce moment-là, seul dans sa nudité, dans sa pauvreté, dans son problème, Dieu met le doigt là, sur son vrai drame. Ta descendance, qui en parlera? Et c'est à ce moment-là que Philippe va venir le rejoindre, envoyé par Dieu, et que Dieu va investir ce drame et cette question de cet homme pour l'habiter en le revêtant du Christ et en donnant une nouvelle naissance à cet homme, et donc une nouvelle postérité, une nouvelle descendance qui sera désormais non pas charnelle mais spirituelle. Et Dieu vient le rejoindre à ce moment-là. On a cette scène aussi avec Moïse, voyez-vous. Moïse, quand il marchande avec Dieu la mission que Dieu veut lui confier en Égypte, alors, il explique qu'il a 80 ans, qu'il était à la retraite, qu'il a un casier judiciaire en Égypte et que ça ne se fera pas d'aller là-bas. Et un argument qu'il dit, mais j'ai la bouche lourde, sans doute une difficulté d'élocution qu'il devait avoir, un bégaiement, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, mais c'est pas grave, tu seras assisté, ton frère Aaron te donnera un coup de main s'il y a des difficultés. Voilà. Donc, il y va quand même. Et 40 ans plus tard, sur le mont Nebo, on nous dit que Moïse mourut. Les traductions sont parfois sur la parole de Dieu, sur l'ordre de Dieu. Le mot hébreu, c'est sur la bouche de Dieu. Et Rashi, un commentateur juif, disait sur le baiser de Dieu. Il est mort sur le baiser de Dieu. L'endroit même où il souffrait, c'est l'endroit même où Dieu l'a rejoint. Voyez-vous, pendant les 40 ans de sa mission, sa bouche qui était sa blessure était en même temps la bouche de Dieu par laquelle il se rejoignait. Et il meurt sur la bouche de Dieu, sur le baiser de Dieu. J'aime beaucoup ce commentaire de Rashi, un grand commentateur juif, et qui dit « Il est mort sur le baiser de Dieu ». Voilà, sa blessure, sa souffrance, son épreuve intime, quelque part, était en fait le lieu où Dieu le rejoignait. Et ça, c'est important de comprendre, parce que souvent, on a une vision, enfin, la frontière pour nous ne passe pas entre avec Dieu ou sans Dieu, elle passe entre être malade ou être en bonne santé, ne pas souffrir ou souffrir, être mort ou être vivant. Et finalement, Jésus parle à des morts et n'adresse pas la parole à des vivants. Il parle à Lazare qui est au tombeau depuis 4 jours et il n'adresse pas la parole à Hérode quand il lui pose des questions ou à certains soldats qui l'interrogent. Il ne répond pas. Et on se dit, c'est bizarre, c'est une impolitesse. Non, c'est que il y a être avec Dieu ou être sans Dieu qui est au cœur de la question. Et puis finalement, il y a quand même une parole qui est incontournable. Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé, mon fardeau léger. » Voilà. Donc, il y a cet appel du Christ, où il vient chercher les blessés, les souffrants, de sorte que le point de rencontre, le point de jonction, le point d'étreinte avec Dieu ne sont pas mes qualités, mes talents qui appartiennent déjà quelque part à Dieu. Saint Paul dira « Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Le lieu où Dieu vient me rejoindre et ce qui m'appartient en propre, c'est mon péché, ma misère, ma pauvreté. Et là, c'est le point de rencontre. Dieu, c'est de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin de nous enrichir, et c'est là le paradoxe, de sa pauvreté. Alors, c'est cette découverte de Dieu à tout moment, dans la vie quotidienne, bien sûr. Un jour, un catéchiste demandait aux enfants « Où est Dieu ?» Alors, un répond « Au ciel !» L'autre, il dit « Dans mon cœur !» Parfois, il dit « À l'église, il y a la petite lumière rouge là-bas, c'est la maison de Dieu, c'est le tabernacle. » Oui, très bien. Un autre dit « Au milieu de nous, car 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est au milieu de nous. » Et cinquième dit, monsieur Curé, je sais, il est où ? À la salle de bain. À la salle de bain, pourquoi tu dis ça ? Ben, tous les matins, quand maman est à la salle de bain et fait sa toilette, papa est devant la porte et dit, bon Dieu, t'es encore là ? Voilà, donc, Dieu peut être dans toutes les circonstances de notre vie. Et donc, il nous appelle à rentrer dans cette logique. Et cette logique particulière est, c'est ce que j'aimerais développer maintenant, dans cette présence eucharistique. Déjà dans la tradition juive, voyez-vous, il y avait la matzah, c'est-à-dire le pain azim dont le Christ s'est servi pour célébrer la première Pâque, la première messe de l'univers, si j'ose dire, la dernière scène. Mais il y avait une matzah particulière qu'on appelait matzah shemura, qui était un pain particulier qu'on mangeait après Pâques pour se rappeler Pâques en permanence, qui était une sorte de pain rond, mais sans levain. Shemura, ça veut dire dont on est attentif à tout. On faisait attention à la fabrication de ce pain, à la cuisson de ce pain, au fait qu'il soit vraiment un pain très pur. Et ce pain que l'on mangeait en mémoire de la Pâque, en dehors de la Pâque, en souvenir de la Pâque, était en fait le pain de la guérison. On appelait ce pain le pain de la guérison. Et quelque part, on pourrait dire que l'Eucharistie reprend cette tradition de la matzah shemura, du pain de la guérison cher à la tradition juive, et qui était un véritable sacrifice dans la tradition juive. Vous savez que le mot sacrifice en hébreu se dit korban, qui vient d'un verbe karov, qui veut dire se rapprocher. Faire un sacrifice, ce n'est pas se priver de quelque chose d'abord, c'est se rapprocher de Dieu. Et on va donc se priver de tout ce qui me sépare de Dieu, bien sûr. Mais fondamentalement, toute idée du sacrifice, c'est rentrer en communion d'amour avec Dieu. C'est se rapprocher de Dieu. Ce qui est une révolution judéo-chrétienne. Dans les traditions antiques, c'est Mircea Eliade, le grand sociologue des religions, qui a mis ça en lumière. Dans les traditions antiques, le sacrifice avait 2 buts. Ou calmer la colère des dieux, parce que les dieux sont fâchés en nous voyant vivre. Ou alors s'attirer les bonnes grâces de Dieu, parce que c'est quand même une belle banque, le bon Dieu, et puis il a de quoi assumer ses dons. Dans la tradition juive, on sait que Dieu nous, judéo-chrétienne, on sait que Dieu nous aime, et que le seul drame de notre vie, c'est de ne pas être assez intime avec lui, de ne pas vivre en alliance permanente avec lui. Et donc, le drame, c'est la séparation de lui, c'est d'être éloigné de lui. C'est le fait d'être loin de cette intimité. Et toute la tradition juive cherche à annuler cette distance. On appelle le bitoul. Quand on rentre dans un bain rituel juif, le mikveh, c'est pas tant pour se laver dans l'eau que pour avoir aucune partie de notre chair qui ne soit séparée de l'eau. qui soit tellement immergé que l'eau rentre dans les narines, dans la bouche, dans les oreilles, partout, de sorte qu'il n'y a plus rien qui n'échappe à cette étreinte d'amour de Dieu. Voyez-vous ? Et donc, tout le sens de notre vie spirituelle, c'est d'être uni à Dieu, d'être en intimité avec lui, d'être dans un cœur à cœur avec lui. Et Dieu a voulu une intimité tellement forte qu'il a permis, comme disait saint Ambroise de Milan au IVe siècle, Cinquième siècle, comment se fait-il que tu rentres dans les latrines de mon corps ? Dieu, tu viens assumer ma chair jusqu'à venir en ma chair pour me transfigurer en toi. Ce n'est pas lui, nous qui l'assimilons, c'est lui qui nous assimile. Et donc, dans cette perspective-là, au cours de l'histoire de l'Église, s'est développée la pratique de l'adoration eucharistique. Et c'est ce que j'aimerais relever maintenant dans trois aspects, ou peut-être quatre si j'ai le temps. Comment l'adoration eucharistique devient une guérison du point de vue théologique. Voyez-vous, sachant que l'adoration, c'est poser sa bouche sur une source de vie, et que cette manière de vivre l'adoration, qui est celle de notre cœur en permanence, va pouvoir se concrétiser devant le Saint-Sacrement. Donc le premier aspect théologique de l'adoration, c'est un renversement complet du mouvement du péché originel. Le péché originel a été une séparation de Dieu. Gustave Thibon dit une chose très belle dans un de ses livres. Il dit, voyez-vous, on a tous entendu le cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« Eloi, Eloi, lama sabachthani ?» Mais le premier cri qui a jailli, c'est celui du Père dans le paradis. « mon fils, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En s'adressant à nos premiers parents, « mon fils, ma fille, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est traduit bibliquement, Adam, où es-tu ? Ce n'était pas une question de géolocalisation d'Adam qui se posait pour le bon Dieu, car elle était capable de voir même derrière les baobabs et sans drone explorateur la présence de ses enfants. C'était où te situes-tu désormais par rapport à moi, par la décision que tu as prise de te séparer de moi ? Où te situes-tu désormais ? Et ce Adam, où es-tu est une question récurrente dans nos existences, mais où te situes-tu par rapport à moi ? Et donc, avant même qu'il y ait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il y a eu mon fils, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et alors, le péché originel, le mouvement du péché originel, traduit dans les mots de saint Augustin, c'est l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu, auquel devrait correspondre l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi. Dans les mots de saint Thomas d'Aquin, c'est préférer la créature au créateur, plutôt que de préférer le créateur à la créature, si vous voulez. C'est un mouvement égocentrique, narcissique en quelque sorte, de retour sur soi, de repliement sur soi. Et l'adoration nous met dans un mouvement inverse. Il nous tend vers Dieu. Il nous remet en désir, en faim, en soif de Dieu. Voyez-vous, je suis... Il y a un sens, parmi les cinq sens que nous avons, un sens qui nous extasie, c'est le regard. Quand, si vous écoutez de la musique, on est plutôt enclin à fermer les yeux, à laisser la musique rentrer en nous, par l'ouïe. Quand on regarde un tableau, un visage aimé, un paysage magnifique, on est là et quand il y a un enfant qui va au bout de l'extase, il a même la bouche ouverte. Il a les yeux ouverts et la bouche ouverte. Il est comme ça, extasié, à la fois en faim et en soif de croquer ce qu'il voit. Parfois on dit « je l'aime à manger, hein, je l'aime à croquer ». Voilà. On peut lui dans l'Eucharistie, cette chose-là d'ailleurs. Voilà. Je suis sorti de moi-même et je suis mis en extase. Et ça, c'est la première grande révolution que nous apporte l'adoration eucharistique. Le fait que le Christ soit présent comme un vis-à-vis, en vue d'un cœur à cœur avec lui, est une façon de sortir de soi, de le voir comme un face-à-face, un jeu à tu. Martin Buber, un auteur juif, a écrit un très beau poème que je vous cite un peu de mémoire comme ça, donc pas tout à fait exact, mais oben du, unten du, neben du, en allemand, en haut toi, en bas toi, à gauche toi, à droite toi, partout toi, toujours toi, rien que toi. Et ce poème, il y a un toi, il y a un tu en face du je que je suis. L'adoration me met d'abord en face de quelqu'un, d'une personne qui me dit « je t'aime ». Quel était le drame du péché originel ? Dans le texte de la Genèse, quand le serpent s'adresse à nos premiers parents, il leur dit « alors Dieu a dit ». Le drame est dans cette phrase, voyez-vous. Quand Dieu s'adresse avant à nos premiers parents, il est dit « Dieu leur parla ». Dieu leur adressa la parole. Dieu leur dit. Il y a toujours un dialogue qui est institué. Le mot Dieu, d'abord, c'est Yahvé Elohim. Quand le serpent parle, le mot Dieu devient Elohim, un nom commun, et il n'y a plus de sujet ou de vis-à-vis en face. Et donc le drame du péché, c'est que Dieu est une voix off, qui dit des choses négatives d'ailleurs, et non pas positives, et qui s'adresse à la cantonade sans aucun vis-à-vis. L'adoration nous remet en face de quelqu'un, d'une personne, qui s'adresse à moi comme à une personne, et me met dans un dialogue de vis-à-vis. Donc, l'adoration eucharistique devient un renversement du péché originel, pour reprendre les mots de tout à l'heure, une extase qui me met en exode de moi, en mouvement, en marche. Et la marche, en hébreu, c'est racher, et ça veut dire être heureux. Marcher, c'est être heureux. Le marcheur est celui qui est heureux. Quand Chouraki traduit les béatitudes, il traduit « en marche les pauvres, en marche ceux qui pleurent ». Mettez-vous en marche, ne restez pas stationnaire, mettez-vous en mouvement. L'adoration nous met en mouvement, sortir de moi pour aller vers l'autre, comme ça. Et on accueille dans notre communauté des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la dépression, la violence. Je pensais à une fille que quelqu'un connaît ici, récemment, je la voyais l'autre jour, elle recevait le corps du Christ, elle était là, et elle tenait le corps de Jésus dans ses mains, comme ça, le regardant. Quand on sait tout le drame qu'elle a vécu derrière et toute la souffrance, dit « J'ai souffert, Nicolas, tu ne peux pas t'imaginer ce que j'ai souffert. » Et je la voyais là, sourire à ce Dieu qui reposait dans ses mains, et je me disais « C'est quand même bouleversant, c'est quand même inouï. » D'abord cette proximité, cette chair à chair, quelque part, et en même temps, complètement sortie d'elle-même, tendue vers cet être qui vient combler son être et guérir ses blessures. Voilà. L'adoration est aussi une chose importante. On nous a dit, éthologiquement, c'est vrai, l'adoration suit le sacrifice de la messe, la célébration eucharistique, et prépare dans le désir la prochaine communion. Benoît XVI a mis une lumière supplémentaire en partant de la philosophie. Un philosophe, Aristote, dit qu'il y a une vertu qui s'appelle la justice, parmi les quatre vertus cardinales, et que le premier aspect de la vertu de justice, c'est la vertu de religion. Donc, du point de vue philosophique rationnel, quel siècle avant Jésus-Christ, en dehors de tout contexte judéo-chrétien, il va dire que le premier devoir de l'homme, c'est de rendre à Dieu un culte d'adoration et d'action de grâce. Et alors Benoît XVI va dire, eh bien finalement, on pourrait dire que dans l'ordre de perfection, si dans l'ordre chronologique, dans l'ordre de succession, l'adoration suit la messe, puisqu'il faut quand même que Jésus soit rendu présent sur l'autel pour pouvoir l'adorer, dans l'ordre de perfection, l'adoration précède la messe, en quelque sorte. Parce que on est en train de remplir le premier devoir de l'homme, se référer à Dieu, se relier à Dieu. C'est le sens du mot religion. C'est revivre une relation avec Dieu, se brancher sur celui qui est à l'origine de notre être. Le Créateur en tant que créature, le Père en tant qu'enfant. Et donc, je vais avoir deux attitudes, dire par une proclamation solennelle, tu es la source de ma vie, et donc je t'adore et je te dis merci, car tu es la source de ma vie. C'est le mot Eucharistia qui veut dire merci. Eucharistie veut dire en grec remercier, rendre grâce. Vous savez, toujours, j'étais un jour dans un home de personnes lépreuses à Chypre. Il y avait une dame qui était sur un lit, qui avait perdu ses mains, perdu ses pieds. Elle était aveugle, perdu le nez, la bouche complètement déformée. Et la religieuse qui gérait ce centre me dit, cette dame prie toute la journée, elle est une hostie sur le lit qui est un autel. Alors moi j'ai craqué, j'ai plongé sur elle pour l'embrasser. Elle était un peu surprise de voir une masse aussi volumineuse plongée sur elle. Alors elle a un peu tremblé au départ, puis ensuite elle a compris ce qui lui arrivait. Et avec ses lèvres complètement arrachées, son visage déformé, elle m'a dit « Eupharisto, merci » en grec. Voilà, merci, voyez-vous. Et dans la tradition antique, déjà chez un auteur comme Philon d'Alexandrie, il y a deux grands mouvements de l'être, ou l'Eucharistie ou l'Acharistie, la reconnaissance, la gratitude, ou la non-reconnaissance et l'ingratitude. Mais ça, les psychologues nous le disent aussi aujourd'hui, voyez-vous. Une personne qui est en reconnaissance, en merci permanent, eh bien, cette personne sort d'elle-même et retrouve la grâce dans l'action de grâce. C'est ça. Et une personne qui se ferme dans l'ingratitude, dans le murmure, dans la non-reconnaissance, dans l'ingratitude, meurt en elle-même. s'enferme en elle-même et finit par mourir en elle-même. Voilà. Donc, deuxième point important théologique, c'est que ça nous remet au cœur même de la vie de l'Eucharistie. André Frossard, vous savez, le fils du premier secrétaire du Parti communiste, raconte sa conversion. Il était donc d'origine juive, athée, communiste. Et un jour, il rentre fortuitement dans une église et il dit « J'ai vu au-dessus du maître-autel un vaste appareil de plantes, de candélabres et d'ornements qui était dominé par une grande croix de métal ouvragée, portant en son centre un disque d'un blanc mat. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie, et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification de tout cela m'échappe. Mais c'est alors que commence l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre. Il ne s'ouvre pas, il s'élance. Il s'élève soudain, fulguration silencieuse, évidence de Dieu, irruption déferlante de lumière, joie du naufragé. Tout est dominé par la présence de celui dont je ne pourrai plus jamais écrire le nom sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné. Je suis catholique. Dehors, il faisait toujours beau, j'avais 5 ans, et le monde antérieurement fait de pierre et de goudron était un grand jardin. Il me serait permis de jouer aussi longtemps qu'il plairait au ciel de m'y laisser. Villemain, son ami qui l'attendait dehors, devant la porte de l'église, marchait à côté de moi et me regardait avec une insistance médicale. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et il dit « Je suis catholique », répondit-il, et comme s'il avait peur de n'être pas assez explicite, j'ajoutais « apostolique et romain ». Et Villemain lui dit « Tu as les yeux écarquillés. Dieu existe et tout est vrai », lui répondis-je. « Non », me dit-il. « Oui, si tu voyais. » Je ne voyais pas. J'étais une chouette en plein midi qui fait l'expérience du soleil. Voilà. Et ce texte est très beau, voyez-vous. Donc, on est au cœur d'un mouvement théologique. L'adoration nous met aussi au cœur d'un autre mouvement. Voyez-vous, la Pentecôte chez saint Jean n'est pas celle des Actes des Apôtres. On connaît tous la Pentecôte des Actes des Apôtres. Ils sont au Cénacle, là où a lieu d'ailleurs la première Eucharistie, réunis avec Marie, reçoivent l'Esprit Saint, sortent, et comme disait un ami prêtre, c'est incroyable. Pierre sort du Cénacle, il fait un sermon, 3000 conversions. Et moi, 3000 sermons et pas une conversion. Je dis, mais non, les conversions sont parfois secrètes. Voilà, donc, il sort de là. Mais la Pentecôte de Saint Jean, celle que le Christ annonce le dernier jour de la fête de Soukhot, de la fête des tentes dans la tradition juive, où au moment solennel de la fête des tentes, quand le grand prêtre remontait avec l'eau puisée à la fontaine de Siloé jusqu'au temple de Jérusalem pour répandre cette eau sur l'autel afin de marquer l'unité des eaux d'en haut et des eaux d'en bas séparées à la Genèse, eh bien, c'était la grande fête de la joie. Les Juifs disent qu'il n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des tentes, ne sait pas ce que c'est que la joie. Et donc, s'il y avait un commandement de la joie, Mitzvah, Shimat, un commandement de la joie, on dit, mais si on ne peut pas être heureux, bah, obéis, sois heureux, puis tu verras. Commandement de la joie. À ce moment-là, Jésus crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car il est écrit, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, après sa glorification. Citant le prophète Zacharie de l'Ancien Testament, il annonce qu'il va y avoir une effusion de l'Esprit Saint qui va jaillir de son cœur. Or, cette effusion a lieu, bien sûr, le Vendredi Saint, quand le cœur est transpercé. C'est beau parce que dans le livre de saint Jean, il est dit que quand les deux apôtres, Jean et André, rencontrent Jésus, au début, ils disent c'était vers la 10e heure. Or, 2000 ans après, qu'est-ce qu'on a à faire de la 10e heure? Or, on peut situer le cœur ouvert de Jésus vers la 10e heure, puisqu'à la 9e heure, Jésus remit l'Esprit, et avant que les premières lumières du Shabbat, vers 5h30 le 14 Nissan, donc à cette date de l'année, on avait dû allumer les lumières du Shabbat vers 5h. Donc entre deux, il a fallu que le cœur soit transpercé vers la 10e heure, donc vers 4h de l'après-midi. Dans la tradition rabbinique de la Mishnah, il est dit une chose intéressante. Dieu a donné la Torah à nos premiers parents à la 9e heure. À la 10e heure, ils transgressèrent la Torah, ils désobéirent, c'est donc le péché originel. Et à la 11e heure, ils furent chassés du paradis. Dieu nous fixe rendez-vous à la dixième heure. Venez à la dixième heure. Ce que vous aviez perdu, l'Esprit Saint, à la dixième heure, quelques milliers d'années auparavant, bien sûr, mais vous avez perdu à la dixième heure, vous êtes restitué à la dixième heure. Il n'y a qu'une seule heure, on a rendez-vous avec Dieu, c'est la dixième heure. C'est le lieu du cœur ouvert. Or, le cœur ouvert, le cœur palpitant de Jésus, bat au Saint-Sacrement de l'autel. Et donc l'Eucharistie est une Pentecôte perpétuelle dans l'esprit de Saint Jean qui nous restitue l'Esprit Saint pour, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, crier à Dieu « Abba Père ». Abba Père. Personne ne peut dire « Abba » si ce n'est par la force de l'Esprit Saint. Et donc, nous sommes restitués à nos dignités d'enfants de Dieu. Nous retrouvons ce cri d'enfant, ce cœur d'enfant, cette grâce filiale qui avait été perdue et qui nous est redonnée dans ce grand pardon. Voilà, alors, théologiquement, voyez-vous, l'adoration eucharistique va être avant tout un rapport filial, comme une douche de l'Esprit-Saint, comme une effusion permanente de l'Esprit-Saint, comme un lieu d'une Pentecôte perpétuelle qui n'a pas les signes et les prodiges de la Pentecôte de Saint-Luc dans les Actes des Apôtres, mais qui a ce mouvement profond qui est de ramener par le cœur de l'homme et par le Christ tout l'univers vers Dieu. De ramener tout l'univers, tout le cosmos vers le Père, dans un retour filial. Et on a derrière ça tout Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et voilà. Et puis le dernier point que j'aimerais relever sur le plan théologique de l'adoration et de la guérison, c'est que finalement, voyez-vous, Chesterton disait, si un monde n'adore plus Dieu ou ne croit plus en Dieu, c'est pas qu'il ne croit en rien, c'est qu'il croit en n'importe quoi. C'est qu'il est prêt à se tourner vers n'importe quelle idole. L'athéisme profond est impossible. C'est-à-dire, de pouvoir se priver dans la vie de quelqu'un ou de quelque chose qui donne un sens à notre existence est impossible. L'homme ne peut pas vivre sans sens. Il y a un neuroscientifique, Michael Gazzanica, qui a fait pas mal de recherches comme ça chez des gens qui avaient été lobotomisés, dont les deux parties du cerveau avaient été séparées pour des raisons d'épilepsie ou comme ça, et qui s'est rendu compte que, finalement, on ne pouvait pas percevoir, il y avait des connexions qui ne se faisaient plus, et que quand il présentait certaines images qui étaient impossibles à comprendre pour la personne qui avait subi cette opération, elle donnait une interprétation malgré tout, car elle ne pouvait pas se passer de sens. Et il a écrit un très beau livre en montrant que l'homme ne peut pas se passer de sens, d'un point de vue neurobiologique. Du point de vue humain, profond, on ne peut pas se passer de sens. Et là, c'est le professeur Frankel, le psychiatre, qui a démontré ça après son passage pendant 3 ans au camp de concentration, en disant « il n'y a qu'une chose qui peut permettre à l'homme de vivre et non pas de survivre, c'est le sens ». Il y avait 3 sens possibles pour lui, le travail, le faire, l'amour humain ou la transcendance. Le seul qui pourra jamais nous être enlevé, c'est la transcendance. Eh bien, voyez-vous, l'homme qui cherche ce sens a besoin de se prosterner. Et il faut un lieu pour se prosterner. Et où je me prosterne devant Dieu, je me prosterne devant des idoles. Donc, le remède contre l'idolâtrie, c'est cet agenouillement devant le Seigneur. Agenouillement du cœur, de l'intelligence, de la volonté. Intelligence du corps, agenouillement du corps devant le Christ qui est là. Il faut se prosterner devant quelqu'un. J'ai très frappé un jour, j'étais à Lyon, un jeune que j'avais rencontré qui était complètement loin de tout et qui s'est converti comme ça dans une rencontre avec des jeunes. Et puis j'avais été son parrain de baptême et il avait invité tous ses collègues de travail qui étaient là pour le baptême. Donc des gens non-croyants pour la grande majorité d'entre eux, des musulmans qui étaient là. Et puis à la fin, il y a un petit repas, il me dit, il faudrait que tu parles à toutes ces personnes. Je dis, mais écoute, entre les cathos de ta paroisse, la paroisse de la Côte de l'Emmanuel, et puis les athées, les musulmans, je vois pas ce que je vais avoir comme discours commun, c'est pas possible. Il dit, débrouille-toi, c'est ton problème, c'est pas le mien, vas-y, cause. Alors il avait mis dans la halle de gymnastique, où il avait réuni toutes ces personnes, une croix. Et moi, j'étais tellement angoissé, tellement mal, que j'étais me mettre à genoux dans la croix, je me suis prosterné le front sur le sol devant la croix, en disant, Seigneur, il faut que tu m'inspires, vraiment. Je me suis relevé, j'ai raconté 2-3 choses, je ne sais pas ce que j'ai dit. Bref, à la fin, il y a un monsieur qui s'approche et qui me dit, voilà, je suis musulman, je veux devenir chrétien. Ah, je dis, écoutez, ça me touche beaucoup, ça fait longtemps que vous pensez à ça. Il dit, non, tout à l'heure. Je dis, mais à quel moment? Quand vous êtes prosterné devant la croix, Comme moi, je me prosterne 5 fois par jour en direction de la Mecque. Jésus, vous étiez face à la bonne direction. Le Christ, la croix. Et heureusement, il y avait le curé de la paroisse qui était là, et il a été baptisé 2 ans plus tard, cet homme. Et c'est incroyable. C'est pas ce que j'ai raconté. C'était ce geste que j'ai fait par désespoir. Vraiment, et par angoisse. En me prosternant devant la croix, l'Esprit Saint lui a parlé en disant, là, c'est juste, il est dans la bonne direction. Il est face à la croix du Christ. Et vous voyez, s'agenouiller devant le Christ au Saint-Sacrement, s'agenouiller devant la présence réelle de Jésus, comme on l'appelle comme ça, non pas qu'elle ne soit pas réelle dans notre cœur au milieu de nous, quand on le loue et qu'on le prie, mais elle est réelle corporellement. Elle est spirituellement réelle en toute occasion, elle est corporellement et spirituellement réelle au Saint-Sacrement. Eh bien, c'est une profession de liberté. C'est une profession de liberté. Je ne peux plus m'agenouiller devant des idoles. Je ne peux plus sacrifier aux idoles quand je me suis prosterné devant le seul, unique et Seigneur, Jésus-Christ. Avec toute l'humilité, Charles Péguy disait, tous les prosternements du monde ne valent pas le bel agenouillement droit d'un homme libre. Toutes les soumissions, tous les accablements du monde ne valent pas une belle prière bien droite, agenouillée, de ces hommes libres là. Toutes les soumissions du monde ne valent pas le point d'élancement, le bel élancement droit d'une seule invocation, d'un libre amour. C'est fulgurant cette phrase-là. Guérison théologique de l'être humain qui se tourne vers le Dieu unique, source de tout bien, avec qui je veux vivre en relation. Guérison anthropologique aussi. Deuxième aspect. Quelle va être la première guérison anthropologique? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, et parfois pour certains autres aussi, le problème, c'est un peu l'orgueil. Vous voyez de quoi je veux parler, là? C'est un péché qui s'appelle l'orgueil. Enfin, voilà. Enfin, si vous pouvez débrancher cette partie-là, si vous voulez. Benoît XVI disait un jour, sa façon d'être Dieu provoque notre façon d'être homme. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, dit-on dans le credo. Et voilà qu'il a le look d'un petit bébé, le look d'un crucifié et le look d'un bout de pain. Sa façon d'être Dieu provoque notre façon d'être homme. J'aimerais dire avec le langage des jeunes qu'on rencontre, on peut plus la péter après, vous voyez, quand un Dieu s'est fait aussi petit que ça. Tout ce mystère de la kénose qui est au cœur du christianisme, Dieu s'abaisse, Dieu descend. Et donc, il vient briser cet orgueil foncier. Qui es-tu face à lui? À la fois, qu'est-ce que l'homme, dira le psalmiste, quand on voit l'ouvrage de tes mains, la splendeur de ta création, et pourtant tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, tu l'as élevé au-dessus des anges. Et ce contraste entre cette dignité d'enfant de Dieu qui est la nôtre, et cette pauvreté qui est la nôtre, eh bien, se vide devant le Saint-Sacrement. Qui suis-je pour revendiquer quelque orgueil que ce soit devant un Dieu qui se livre entre nos mains? Devant Dieu qui s'abaisse jusqu'à être présent au milieu de nous sous l'apparence d'une matière inerte. Sous l'apparence d'un enfant, c'était déjà scandaleux à la crèche. Et les bergers, les rois mages, les anaouim, les pauvres de Yahvé, se sont prosternés devant lui. Sous l'apparence du crucifié, c'est encore beaucoup plus scandaleux. Scandale pour les juifs, folie pour les païens, dit saint Paul. Et pour ceux qui croient, sagesse de Dieu et puissance de Dieu, ça va être Marie, ça va être Jean, ça va être les saintes femmes, Marie-Madeleine, ça va être le centurion, tous ceux qui vont être bouleversés au cours des siècles par ce geste de folie d'amour de Dieu qui se donne à nous dans la croix. C'est un jour à Calcutta, dans le bouloir de Mère Teresa, on avait amené un homme qui avait plus que les os et une peau rongée par les bêtes. Vous savez que le seul langage universel, quand on ne se comprend pas avec des mots, c'est de prendre des gens dans les bras puis de les serrer comme ça. Alors je l'ai pris dans les bras et il m'a demandé une friandise indienne. J'ai lui acheté la friandise, il l'a regardé avec des yeux tout écarquillés, il a essayé de manger, mais il n'a pas réussi. Il a recraché. Après, il m'a demandé une boisson. C'était une sorte de grappe-fruit, comme ça. J'ai lui acheté la boisson et il n'a pas réussi à avaler. Et après, il m'a demandé ma croix. Il était manifestement hindou, donc je ne vais pas lui donner un signe contraire à sa religion. Et il a tellement insisté que j'ai enlevé la croix, j'ai mise dans sa main. Il m'a fait signe non autour du cou. Alors, j'ai mise autour du cou. Et puis, il m'a fait un beau signe merci, je suis parti vers d'autres malades et 3 quarts d'heure après, en passant au pied de son lit, j'ai vu qu'il était en train de partir. Donc j'ai repris dans les bras, j'ai demandé si vous voulez pas que j'enlève la croix pour pas qu'il meure avec un signe contraire à sa religion. Il m'a fait signe non. Avec le peu de force qu'il avait, il a pris la croix, il l'a mis sur ses lèvres, il a embrassé la croix, il m'a laissé tomber, il est parti comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur, je ne lis pas dans les cœurs. Dans le mien, j'avais qu'un désir, c'était accrocher toutes mes prières à son âme. Je me dis, jusqu'à maintenant, il a vu ma tête, après il voit la tête du bon Dieu, il gagne au change quand même. Et puis quelque part, au fond de mon cœur, je me suis dit, mais lui ne connaissait peut-être pas cet homme qui était mort pour lui sur la croix, mais lui, il connaissait cet homme qui souffrait. Et il y avait une mystérieuse communion qui était là, le baiser de la croix était le baiser de l'amour, voyez-vous. Et cet homme décharné, comme mon Dieu a été décharné sur la croix, eh bien, était uni dans un même mystère de l'appauvrissement. Eh bien, je crois que c'est ça. L'adoration eucharistique va me mettre devant un Dieu qui me provoque face à toutes mes revendications orgueilleuses. Il me provoque aussi face à mon égoïsme et au repliement sur moi-même. Je ne veux pas insister là-dessus, mais nous avons besoin aujourd'hui, je crois, d'une école de la liberté, mais une école de la liberté qui parle du don de soi. Or, Jésus est un don. L'Esprit Saint est le don du Dieu Très-Haut, mais l'Eucharistie est un don. Prenez, mangez, livrez entre nos mains. Livrez, pas seulement donner, livrez. Jetez en pâture pour ceux qui le prennent et qui l'accueillent comme nourriture. Ça deviendra une nourriture de vie éternelle, dit Jésus en Saint Jean au chapitre 6. Mais pour ceux qui le refusent, on peut le jeter en pâture, effectivement. On peut le jeter en pâture. Voilà. Donc, il y a une sorte d'apprentissage de la liberté, dont la logique est le don de soi. Ne rien attendre en retour, mais donner. Et dont le bonheur n'est pas dans le retour sur investissement, mais dans le don lui-même. Voyez-vous ? Autre point très important qui me paraît essentiel dans l'adoration eucharistique, c'est l'estime de soi. Voyez-vous, ça vient nous chercher aussi dans notre psychologie profondément. J'avais une fille un jour, elle avait fait... J'ai vécu 5 ans dans un ermitage, c'était au bout de 480 marches d'escalier dans une falaise de rochers comme ça. Et un jour, je vois arriver une fille au sommet des escaliers. Elle tirait une tête, vous savez, la bouche à 7h25 comme ça. Une tristesse sur son visage. Et je me sentis poussé à lui mettre les mains sur les épaules et dire, tu sais, tu es belle, Dieu t'aime et je t'aime. C'est pas mon genre habituellement, rassurez-vous. Ce qu'elle m'a dit par la suite, c'est qu'en psychothérapie familiale, son père lui avait dit, tu peux crever, j'en ai rien à faire. Donc elle avait fait 5 tentatives de suicide. Et ce jour-là, elle avait un pistolet dans son sac. Ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris des mois plus tard. Et elle s'était dit qu'avec une balle dans la tête et 135 mètres de chute à pic au bord de la falaise, elle n'allait pas se louper. Il se trouve que je l'invitais à parler un petit peu, on a passé 3 heures ensemble, elle me disait presque rien, si ce n'est qu'elle ne croyait pas en Jésus-Christ. Et elle est venue le deuxième jour, troisième jour, je ne savais rien de son histoire, rien, jusqu'à ce qu'elle puisse le révéler par la suite. Là, elle ne pouvait pas parler. Et un jour, le troisième jour, je lui ai dit, écoute, t'es trop brisé, t'es trop cassé, il n'y a qu'une chose qui peut te relever, c'est de te laisser regarder par Jésus. Je lui ai dit, mais j'y crois pas à ton Jésus. Je lui ai dit, ça fait rien, lui, crois en toi. Je dis, mais ça veut dire quoi, se laisser regarder par lui ? Je dis, bah, tu vois, moi, je passe des nuits d'adoration à la chapelle. Et je pensais à cette phrase du prophète Malachi, « Le soleil de justice brillera, portant dans ses rayons votre guérison. » C'est la dernière prophétie de l'Ancien Testament. Après, on passe à l'Évangile selon saint Matthieu. Et le soleil de justice, c'est bien sûr le Christ, mais c'est aussi l'hostie pour moi, Jésus présent, Saint-Sacrement. Donc, le soleil de justice brillera, portant dans ses rayons votre guérison. Alors, je vais parler de ça. Il y a des gens qui vont se bronzer sur la plage au début de l'été, recto, verso, pile, face. Enfin, ce qui n'est pas un mal en soi, mais parfois on oublie de bronzer le cœur, vous voyez. Alors là, j'ai dit, la nuit dans la chapelle, pas de risque de coup de soleil. Elle part au pas de course, elle revient une heure après, elle me dit, ok, d'accord, mais 9 nuits. Après, j'ai appris que sa grand-mère faisait des neuvaines de temps en temps, qu'elle veut faire une neuvaine d'adoration. Donc elle vient le premier soir, de 10h du soir à 6h du matin. Elle était là, devant Jésus exposé. Elle ne quittait pas Jésus du regard. Moi, j'étais à côté, je piquais du nez sans arrêt, comme ça, je suis fatigué. Elle, rien du tout, elle me boostait un petit peu. À la fin des 9 nuits, elle m'a dit, Nicolas, j'étais tombé si bas. Elle m'a écrit, elle n'a pas pu le dire, mais elle m'a écrit, j'étais tombé si bas, qu'au fond du gouffre, je me suis cassé le nez sur Jésus. Et comme un trampoline, il m'a renvoyé à la lumière. Je me trouvais moche, nul et conne. Et j'ai compris qu'il m'a dit que j'avais du prix à ses yeux, qu'il m'aimait et que j'étais belle. Ce qui compte désormais, ce n'est plus ce que mon père pense de moi, ce n'est plus ce que les autres pensent de moi, ce n'est plus ce que moi je pense de moi, ce qui compte, c'est ce que Jésus pense de moi. Cette fille a fait sa confirmation 6 mois plus tard, elle a fait des études de lettres, elle est mariée, elle a 2 enfants. Et pour la petite histoire, il y a 1 an et demie, je célébrais la messe dans notre communauté, 7h moins le quart le matin, je vois un homme au fond de la chapelle, un peu étonné, Et puis, ce visage, je le connais, mais je ne savais plus le situer. Puis à la fin, il vient me saluer, il me dit, vous vous souvenez de moi? Puis j'écoutais votre visage, je me dis quelque chose, mais je ne sais plus où on s'est rencontrés. Et il me dit le nom de cette fille. C'était le père de cette fille. Et il me dit, je me suis converti aussi. Et je suis venu à la messe ici ce matin parce que je vais garder les enfants de ma fille après. Elle travaille aujourd'hui. Et donc, je vais chez elle. Alors, j'ai voulu venir à la messe avant pour... voilà. Je trouvais tellement beau cette tendresse de Dieu, voyez-vous. Un regard de Dieu qui ne dévisage pas, mais qui envisage. Qui ne défigure pas, mais qui transfigure. Un regard qui dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Une maman me racontait récemment... son enfant trisomique avait fait sa première communion et son parrain, qui était son oncle aussi, dit « C'était une belle journée, mais dommage qu'ils ne comprennent rien. » Et la mère a dit « J'ai eu mon cœur transpercé, j'ai regardé mon frère, les larmes aux yeux. » Et son petit enfant le prend par la main, trisomique 8 ans, et dit « Maman, Jésus, lui, il m'a tout compris. T'inquiète pas, maman, Jésus, il a tout compris. Voilà. Vous voyez, tout d'un coup, il y a ce regard-là. Et il y a un psychanalyste assez intéressant, François Roustan, qui est assez décapant d'ailleurs dans le milieu psychanalytique, et qui dit finalement, il y a le mythe de Narcisse, qui est un mythe très, très porteur aujourd'hui, qui meurt victime à ses propres yeux, dit-il. Parce qu'il se regarde tellement qu'il en meurt. Et dit, on a tellement besoin de sortir de cette logique-là, du narcissisme qui est là. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs toutes les pathologies qui peuvent résulter du narcissisme au pervers narcissique et tout ça. Personne centrée sur lui-même. Et l'adoration eucharistique va venir nous rejoindre, poser un autre regard sur moi qui me fait exister. On sait bien, et ça des gens comme Eric Erickson, des psychiatres aussi, psychologues, ont montré que pour l'enfant et pour la confiance en soi... C'est le regard dans la première année de deux personnes, habituellement trois, quatre personnes éventuellement, qui constituent en quelque sorte le capital fondamental de confiance en soi de l'être humain. C'est le regard des parents, c'est le regard des grands-parents, de quelques personnes, des frères et sœurs, enfin, quelques regards qui font exister la personne. Et dans notre monde actuel, ce regard a manqué parfois, pour des circonstances de la vie douloureuses. Ce regard manque parce que c'est un regard qui dévisage ou qui défigure souvent, par la publicité, par les exigences du paraître, et tout d'un coup, Dieu vient poser un regard sur moi, qui m'envisage et qui me transfigure, voyez-vous. L'adoration eucharistique est une refiguration de l'homme, une transfiguration de l'homme, un envisagement de l'homme, qui me redonne ma dignité, et qui fait que ce qui importe désormais, c'est ce que Dieu pense de moi, et non pas ce que le monde pense de moi. Donc il y a une guérison fondamentale qui vient de cette certitude que Dieu m'aime et qu'il me regarde. Le drame de Jean-Paul Sartre, qu'il dit dans les mots, vous savez, il raconte qu'il était un être assez spirituel d'ailleurs. J'inclinais, dit-il, d'autant plus à m'élever au-dessus des biens de ce monde que je n'en possédais aucun et j'aurais trouvé sans peine ma vocation dans un confortable dénuement. J'étais même de la graine de ceux dont on fait des saints, dit-il. Si son grand-père n'avait pas été un peu cynique et se moquait des excentricités des saints. Et il dit, jusqu'au jour où j'avais joué avec des allumettes et brûlé un petit tapis dans la maison. J'étais seul, j'étais en train de maquiller mon forfait, quand soudain Dieu me vit. Je sentis son regard à l'intérieur de ma tête et sur mes mains. Je tournoyais dans la salle de bain, horriblement visible, une cible vivante. L'indignation me sauva. Je me mis en fureur contre une indiscrétion si grossière. Je blasphémais, je murmurais comme mon grand-père, « Sacré nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, tu ne me regarderas plus jamais. » C'est intéressant, le drame de Sartre, il est dans ce regard de Dieu, mais qui est juste le contraire du regard de l'adoration, voyez-vous. Dieu n'est pas là pour me condamner ou m'accuser, il est là pour me relever et me sauver. Il me regarde pour me rejoindre dans ma misère et ma pauvreté, en vue de me redonner ma dignité profonde, qui a été blessée par le péché, qui a été perdue par l'égarement, et qui m'est restituée par un regard qui m'envisage et qui me restitue ma dignité. Bien, l'adoration est ce lieu où Dieu me regarde. Il me regarde d'en bas, si j'ose dire, pas d'en haut, mais d'en bas, de tout en bas, de la pauvreté, de sa présence eucharistique, de son dénuement ultime. Et donc, devant Jésus, j'allais dire, c'est là qu'il va pouvoir me redonner ma dignité. Dans l'Ancien Testament, il y a cette scène, vous savez, où Sarah et Abraham chassent Agar, qui s'en va au désert, et elle laisse son fils Ismaël d'un côté. Elle est en train de, en disant, bon, on va mourir, et Dieu vient à son secours. Pour la première fois dans l'Écriture sainte, une esclave va nommer Dieu. Jusque-là, c'est Dieu qui dit son nom, qui révèle son nom. Pour la première fois dans l'histoire sainte, c'est une esclave qui va, non juive, qui va nommer Dieu, et elle va dire Ata El Roy, toi tu es le Dieu qui me voit. C'est extraordinaire cette chose-là. Pour la première fois qu'un être humain ose nommer Dieu, il le nomme en étant le Dieu qui me voit, et par conséquent qui voit ma misère, et par conséquent qui me sauve de ma misère, et par conséquent qui me libère de ma misère. C'est inouï. La seule personne qui a eu cette liberté intérieure pour dire ça, c'est cette esclave qui a osé donner un nom à Dieu. Tu es le Dieu qui me voit et donc qui me sauve. Eh bien, je crois que c'est ça qui se passe à l'adoration, voyez-vous, de ce moment où on va sortir de soi et on va découvrir un Dieu qui me voit, un Dieu qui me voit dans ma vulnérabilité. C'est un autre point que j'aimerais relever. Vous savez, Nietzsche avait rêvé du surhomme. Le monde actuel rêve du transhumain, l'homme enfin parfait, des espèces enfin, je ne sais pas vous, mais moi, de résidus archaïques d'une évolution déclinante que je suis, c'est quand même assez tragique. Il serait quand même temps qu'on soit quelqu'un avec un QI quand même un peu digne d'un être humain à 180, 200, 220, quelque chose qui vaille la peine, quoi. Enfin, et puis qu'on vive 1000 ans. C'est Laurent Alexandre qui écrit des livres là-dessus, et qui dit, mais qui va vouloir vivre dans 20 ans avec un QI inférieur à 170, quoi. Enfin, vraiment, c'est à plus personne. Donc, il faut qu'on trouve un moyen. Alors, on va nous brancher, enfin, tout ce rêve du transhumanisme, une sorte de perfection humaine, le Dieu auquel nous croyons ne nous rend pas transhumain ou surhumain, il nous humanise et nous divinise. Ce qui est bien plus grand. C'est bien plus grand, voyez-vous. Et il nous humanise en nous faisant accepter notre vulnérabilité, il nous divinise en perfusant nos pauvretés pour les sanctifier. Voilà l'œuvre bouleversante dont le surhumain et le transhumain n'est qu'une pâle et tragique et triste caricature. Il y a bien au cœur de l'homme le désir de passer l'homme, le désir de vivre autre chose que simplement notre humanité, dans sa misère et sa pauvreté. Mais c'est la sainteté qui est ce dépassement de l'homme, qui est l'assomption de notre humanité, et j'allais dire l'assumation totale de notre humanité et de notre vulnérabilité, où mes stigmates deviennent le lieu de la perfection de la vie par les stigmates du Christ. Nous sommes perfusés en permanence d'une vie divine par le lieu même où nous sommes blessés. Et donc nous accédons à une sainteté. Et derrière cette soif de transhumanisme, de surhumain, de Nietzsche ou de Elon Musk et de toutes ces personnes-là, de Laurent Alexandre et autres personnages comme ça, il y a ce désir, cette expérience de l'homme qui est limité, et ce désir d'autre chose, mais qui ne s'accomplit profondément que dans la perfusion de la vie divine, que dans la divinisation de l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà l'extraordinaire qui nous est demandé de vivre. Et puis, j'allais dire, dans l'adoration eucharistique, il y a aussi, vous savez, on parle beaucoup des troubles de l'attention aujourd'hui. Les pères de l'Église avaient un jeu de mots en grec qui disait que la prosoïké, l'attention était la mère de la prosoïké de la prière. Et donc, il y avait un lien entre l'attention et la prière. Dans l'adoration eucharistique, mon regard fixé sur le corps du Christ m'extasie, comme je disais tout à l'heure, me rend attentif à sa présence, même si parfois mon imagination divague, mais je la ramène vers Dieu. Et du coup, il y a toute une guérison de l'attention, voyez-vous, qui est opérée à travers ça. Je crois que les troubles de l'attention qui se développent aujourd'hui, c'est très contesté au niveau médical aujourd'hui, il y a pas mal de psychiatres qui ont écrit, dans un psychiatre français qui a écrit un livre là-dessus récemment, finalement, est-ce qu'on n'a pas amplifié les choses? Est-ce qu'on n'a pas... Et ce n'est pas une pathologie qui n'est pas celle que l'on croit. Céline Alvarez montre qu'en prenant des enfants qui étaient tous diagnostiqués hyperactifs et troubles d'attention, en les mettant 4 mois au vert, avec aucun instrument électronique, avec des jouets en bois et des choses toutes simples, 67% avaient perdu leur diagnostic pathologique à la fin et 36% avaient augmenté leur capacité cognitive de manière significative. Donc tout d'un coup, on se dit, est-ce que ce n'est pas une maladie du siècle ? Et je pense que l'adoration eucharistique, le silence devant Dieu, le rien faire devant Dieu, qui est l'activité suprême, me concentre, me met en attention, de sorte que l'attention à la présence réelle du Christ me met en attention à la réalité du monde extérieur. Après, voyez-vous, je sors de la virtualité pour entrer dans une réalité qui est une hyper-réalité, la réalité invisible d'une présence réelle de Dieu au milieu de nous, mais que je ne perçois pas avec mes sens et que je touche par la foi, l'espérance et la charité. Et en même temps, la réalité sensible par laquelle Dieu ne cesse de me parler. La création, l'autre, Dieu me parle à travers tout ça. Les événements, les circonstances, ce que le théologien Karl Rahner appelait la sacramentalité du réel. Une façon pour Dieu de se rendre présent dans la réalité. Voilà, donc il y a quelque chose d'extrêmement profond là derrière, et puis en même temps un apprentissage d'une certaine solitude qui est absolument nécessaire à la vie de l'homme, voyez-vous. Je ne peux être en relation avec l'autre que dans la mesure où je suis établi dans ce que Jean-Paul II, dans le commentaire sur la Genèse, appelait la solitude originelle. Dans ce passage, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il disait, finalement, il y a un moment donné où je dois me recevoir des mains de Dieu comme être unique et remplaçable afin de devenir un être relationnel. Autrement dit, il faut que je m'accueille comme un don en vue du don de moi-même à l'autre. Si je court-circuite cette étape de l'accueil du don, de la solitude originelle, je suis nécessairement en fusion avec l'autre, en dépendance affective, voire en pathologie relationnelle, et la fusion conduit souvent à la fission. Et donc, cette relation fusionnelle-fissionnelle est un peu une marque aujourd'hui, malheureusement, de la relation affective telle que nous la rencontrons. L'adoration classique va m'établir dans une solitude profonde qui n'est pas un isolement, mais qui est le fait de se recevoir de Dieu en vue du don de moi-même en retour. De sorte que l'autre ne va pas être instrumentalisé pour combler le vide abyssal de mon cœur, mais ce vide étant déjà comblé par la présence de Dieu, le reste, mon amour, sera débordement de don et non pas possession. C'est l'amour oblatif et non pas l'amour possessif. C'est une petite fille qui disait un jour, quand tu dis j'aime les fleurs, tu les coupes. Quand tu dis j'aime les oiseaux, tu les mets en cage. Quand tu dis j'aime les chiens, tu les tiens en laisse. Quand tu dis j'aime les pommes, tu les croques. Et quand tu me dis je t'aime, j'ai très peur. Et le mot aimer a 2 sens. J'aime une pomme et je la croque, c'est bien. Si j'aime une personne comme j'aime une pomme pour la croquer et la dévorer, c'est beaucoup moins bien. Que j'aime un chien que je promène au bout d'une laisse, c'est très bien. Que j'aime une personne et que je la tienne au bout d'une laisse affective, d'un chantage ou je ne sais quoi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Et c'est la différence entre l'amour possessif et l'amour oblatif. L'adoration me fait me recevoir comme une oblation de Dieu et me met en oblation de moi-même, de sorte que je sors d'un individualisme exacerbé pour entrer dans un être personnel et relationnel. Ce n'est plus Dieu pour moi, c'est moi pour Dieu qui va me permettre d'entrer dans cette logique-là. Et finalement, cet aspect va me mener jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au martyr. Fulton Sheen, le bienheureux Fulton Sheen, qui était un évêque et un des premiers grands apôtres des médias aux États-Unis, le pape Pie XII, je le regardais à Rome dans ses émissions de radio et ensuite de télévision, disait un jour, il était au séminaire et dit « J'étais bouleversé par le témoignage d'une petite chinoise de 11 ans. » C'était l'époque des persécutions. Les chrétiens étaient persécutés de tous les côtés. Un prêtre avait été arrêté. La police avait pris possession de l'église. Et il restait. Les soldats avaient ouvert le tabernacle, jeté les hosties par terre. Et le prêtre savait exactement le nombre d'hosties. Il y avait 32 hosties dans le ciboire. Il avait gardé juste le nombre d'hosties qui était nécessaire pour les paroissiens. Et alors, l'église était gardée, le prêtre enfermé, et il voyait par la fenêtre, toutes les nuits, une jeune fille de 11 ans aller dans l'église. Et il voyait cette fille, alors que les gardes dormaient ou se reposaient ou étaient à l'extérieur, se mettre à genoux par terre, rester un moment en adoration, puis ensuite, avec sa langue, prendre une hostie et communier. un jour, deux jours, 20 jours, 30 jours, 31 jours, 32 jours. Le prêtre savait que c'était la dernière hostie. Et dit, la nuit, l'enfant revint et, échappant à la vigilance du garde posté devant le presbytère, entra dans l'église. Là, elle fit une heure d'adoration et un acte d'amour, et elle s'approcha de l'autel, s'agenouilla, se baissa à quatre pattes, happa une hostie avec sa langue, recevant ainsi Jésus dans la Sainte Communion. À cette époque, dit-il, on ne te recevait pas dans la main. Et c'était la dernière hostie. Elle le fit comme d'habitude, mais sans le vouloir, elle fit un bruit qui éveilla l'attention du garde. Celui-ci courut derrière elle, l'attrapa et la frappa avec la crosse de son arme et la tua. Et Fulton Sheen dit, depuis que j'ai entendu cette histoire de cette martyre, de cette fille qui avait protégé de sa chair, la chair de Jésus, alors j'ai voulu donner ma vie à ça. Et j'ai pris la résolution, il était encore séminariste, de faire chaque jour, dit-il, une heure d'adoration. Il dit, une promesse que j'ai tenue pendant les 60 années de ma vie sacerdotale, de faire chaque jour une heure devant le Saint-Sacrement. Voilà. Alors il y a aussi des guérisons physiques, bien sûr. Dieu va irradier, on a vu des choses absolument étonnantes. Enfin, je vous dis, pour la plupart des jeunes, c'est un jour, un jeune vient me dire, Nicolas, je te dis, je tiens plus, j'ai besoin de l'héroïne, je vais me casser cette nuit. Je dis, ok, je peux pas te retenir de force, je peux pas te mettre des menottes, te mettre une chaîne ou des cordes, je peux faire une chose, je peux passer la nuit avec toi à la chapelle si tu veux. J'ai dit, d'accord, il me dit, écoute, je veux bien tenter, mais je t'assure pas, je suis pas sûr de tenir. Je dis, écoute, de toute façon, au moins on aurait essayé quelque chose. Alors il s'est mis devant l'autel, j'avais exposé le Saint-Sacrement, il avait les ongles plantés dans l'autel, si j'ose dire. Il est resté là, jusqu'au moment où il s'est effondré de sommeil, il s'est couché au pied de l'autel, comme ça. Moi j'étais derrière, je priais. C'était le tournant, il n'a plus jamais eu de tentation. C'était fini. Il a fait une formation après, un apprentissage, une formation, et il s'est relancé dans la vie. Le dernier combat. Et il m'a dit, mais Nicolas, je ne tiendrai pas. Et j'ai dit, ben voilà, on va demander à Dieu qu'il te tienne. Moi, je ne peux pas te tenir de force, mais lui va pouvoir te tenir. Voilà, le dernier point que je voulais, mais j'aborderai très rapidement, si l'heure étant déjà avancée, c'est le côté sociétal, politique et cosmique de l'adoration eucharistique. Si je veux le résumer un petit peu, je prendrai une parole du patriarche Ignace IV d'Antioche qui disait un jour, « Où le monde sera défiguré par la consommation, où il sera transfiguré par l'adoration. » Où le monde est défiguré par la consommation ou transfiguré par l'adoration. Et voyez-vous, je crois qu'il y a une force politique, économique et sociétale de replacer le primat de Dieu et le primat de la grâce au cœur de notre vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, non seulement dans le cœur de l'homme qui adore, mais dans la société tout entière, il y a un mouvement qui se crée où je vais vers la source et la fin de tout, qui est Dieu. Je renverse l'ordre des choses pour le ramener à sa source et à sa fin. Et l'adoration devient l'acte prophétique et révolutionnaire le plus puissant de notre temps. Proclamer la seigneurie de Dieu sur le monde et sur le cœur de l'homme. Proclamer le primat du Créateur sur la création. Va avoir des conséquences, comme Benoît, comme Jean-François l'a rappelé dans son encyclique Laudato Si, va avoir des conséquences cosmiques. Et le salut a une dimension cosmique. C'est le cosmos tout entier qui est transfiguré. Saint Paul nous dit, la création tout entière gémit dans les souffrances de l'enfantement, attendant la révélation des enfants de Dieu, attendant que les hommes se comportent comme des enfants de Dieu, voyez-vous. Et donc, l'adoration va être une sorte d'irradiation. Benoît XVI a osé utiliser l'expression de fission nucléaire, une bombe A, une bombe d'amour qui explose sur la terre, et qui, par le seul fait que c'est l'acte du Christ, irradie le monde entier, irradie le cosmos, et tient l'univers dans son unité et dans sa communion, et ramène, j'allais dire, cet univers fracturé, ce monde cassé, pour reprendre un mot de Mounier, le ramène dans l'unité profonde. C'est un petit peu le sens de la messe sur le monde de Teilhard de Chardin aussi, voilà, de dire qu'il y a quelque chose du monde entier. Et le patriarche Athénagoras disait, patriarche de Constantinople, l'Eucharistie protège le monde et déjà secrètement l'illumine. L'homme y retrouve sa filiation perdue. Il puise sa vie dans celle du Christ, l'ami secret, qui partage avec lui le pain de la nécessité, le vin de la fête. Et le pain est son corps, et le vin est son sang. Et dans cette unité, plus rien ne nous sépare de rien ni de personne. Que peut-il y avoir de plus grand C'est la joie de Pâques, la joie de la transfiguration de l'univers. Et nous recevons cette joie dans la communion de tous nos frères et sœurs, vivants et morts, dans la communion des saints et la tendresse de la mère. Alors plus rien ne peut nous faire peur. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous sommes des dieux. Désormais, tout a un sens. Toi et ton corps, tu as un sens. Tu ne mourras pas. Ceux que tu aimes, même si tu les crois morts, ne mourront pas. Ce qui est vivant est beau jusqu'au dernier brin d'herbe, jusqu'à cet instant fugitif où tu as senti tes veines pleines d'existence. Tout sera vivant à jamais. Même la souffrance, même la mort ont un sens. Elles deviennent les chemins de la vie. Tout est déjà vivant parce que le Christ est ressuscité. Il existe ici-bas un lieu où il n'y a plus de séparation, où il y a seulement le grand amour, la grande joie, et ce lieu, c'est le Saint Calice, le Saint Graal au cœur de l'Église. Et par là, dans ton cœur, voilà ce que nous devrions pouvoir dire, voilà ce que devrait être le culte véritable. Et vous, une expérience, une fulgurance qui est là, qui fait déjà que, quelque part, il y a un point de jonction entre le temps et l'éternité, entre le ciel et la terre, entre ce qui passe et ce qui ne passe pas, où tout est transfiguré dans cette présence. Et donc tout est aspiré, attiré vers en haut par ce Christ premier-né d'entre les morts, premier frère d'une multitude de frères qui nous conduit vers le Père et avec nous l'univers entier. Voilà le sens profond de l'adoration. J'ai appris que vous allez instituer l'adoration perpétuelle dans cette paroisse. Eh bien voilà ce que nous faisons. Vous êtes des révolutionnaires. La seule vraie révolution. Des insurgés de Dieu, mais dans le sens noble et grand, pour faire advenir le règne de l'amour, l'association de l'amour. Amen.